Pourquoi Afrique ? Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Le Monde aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition du mardi 6 septembre 2022. Avec vous, Eric Manila-Kidza. Voici d'abord le sommaire. Le président de la transition du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo-Damiba, appelle à poursuivre le combat contre les groupes armés au lendemain d'un nouvel attentat qui a fait au moins 35 morts. En Guinée, mission de la CPI et dans la mission de la CPI et dans la capitale, en vue du progrès du procès du massacre du stade de Conakry le 28 septembre 2000. L'émissaire américain Hammer en Éthiopie pour tenter de mettre fin au conflit dans le nord du pays, théâtre d'intenses combats. Au Royaume-Uni, Liz Truss devient officiellement première ministre. La reine Elisabeth II lui a confié la tâche de former un gouvernement. Dans des minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au Burkina Faso, l'attentat qui a fait 35 morts, dont plusieurs enfants, est la preuve qu'il faut poursuivre le combat contre les groupes armés qui refusent la main tendue, a estimé le président burkinabé au lendemain de cette attaque. Le point avec Rosine Munezero.
Cette énième attaque lâche et barbare est la preuve que nous devons continuer le combat contre tous ceux qui refusent la main tendue, a réagi le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo-Damiba. J'ai la ferme conviction que nous les vaincrons, ce n'est qu'une question de temps, a-t-il déclaré. L'explosion lundi d'une bombe artisanale au passage d'un convoi de ravitaillement entre Dibo et Bozanga dans le nord du pays a fait au moins 35 morts et 37 blessés civils, d'après Rodolphe Sorgho, gouverneur de la région du Sahel. La veille de l'attaque, le lieutenant-colonel Damiba a tenu un discours à la nation. Il a assuré avoir intensifié les offensives de l'armée et a initié en même temps un processus de dialogue avec certains groupes armés via des leaders religieux et coutumiers. Cela a permis, selon lui, à plusieurs dizaines de jeunes de saisir la main tendue en déposant les armes. Début août, 15 soldats ont été tués sur le même axe d'Ibo-Bourzanga dans un double attentat à la bombe.
Une mission de la Cour pénale internationale se trouve depuis hier soir à Conakry. Objectif, évaluer l'état des préparatifs du procès des auteurs présumés du massacre de Posan dans un stade de la capitale guinéenne en 2009. Abdourahmane Dia.
Pendant leur séjour, les émissaires de la CPI auront une série d'entretiens avec les autorités judiciaires guinéennes et l'association de victimes. Le président de la transition a fait une déclaration extrêmement importante pour nous en indiquant qu'il était essentiel que ce procès se tienne avant la date d'anniversaire, c'est-à-dire le 28 septembre, a déclaré à la presse le Sénégalais Mamadou Ndiaye Niang, procureur adjoint à la CPI. Notre souhait est que ce procès se tienne pour ne pas amener la CPI à exercer sa compétence. Nous attendons la tenue d'un procès équitable qui respectera les droits de la défense et de la partie civile, a expliqué le chef de la mission de la CPI. Le 28 septembre 2009, des militaires avaient tué au moins 157 personnes et violé 109 femmes dans le stade où étaient rassemblés des milliers d'opposants à la candidature à la présidentielle du chef de la junte d'alors, Moussa Dadis Camara, selon une commission d'enquête de l'ONU. L'instruction judiciaire s'est achevée en décembre 2017 avec le renvoi d'une douzaine de prévenus devant un tribunal, dont Dadis Camara.
Les échauffourées lundi dans la banlieue de Conakry, à un an après le coup d'État en Guinée, ont fait 10 blessés parmi les forces de l'ordre, dont 4 graves, selon un communiqué du ministère de la Sécurité. Les manifestations à l'appel du FNDC, coalition de partis, syndicats et organisations de la société civile, visaient notamment à dénoncer la gestion unilatérale de la transition par la junte, l'instrumentalisation de la justice et la répression de la contestation. Ces manifestations étaient interdites par les autorités. Le dialogue de réconciliation nationale lancé il y a 2 semaines par la junte militaire au Tchad et censé s'achever le 20 septembre a été prolongé d'au moins 10 jours en raison de nombreuses interruptions selon l'agenda adopté mardi. Ce dialogue doit déboucher sur des élections libres et démocratiques au terme d'une transition de 18 mois renouvelable une fois. Une personne a été tuée mardi lors de la dispersion d'une foule hostile à un convoi de casquets bleus à Bénéville dans l'est de la RDC. Selon une source policière, des motocyclistes ont caillassé une colonne des véhicules des casquets bleus et ont empêché leur progression. Les casquets bleus ont riposté en tirant pour se frayer un chemin. L'émissaire américain Mike Hammer est en Éthiopie. Il va tenter de mettre fin au conflit dans le nord du pays où de très intenses combats se poursuivent selon les rebelles du Tigré. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait annoncé la venue de Mike Hammer en Éthiopie pour réclamer une cessation immédiate des hostilités et le début de pourparlers de paix. Getachew Reda, porte-parole des autorités du Tigré, a affirmé que les troupes tigréennes résistent aux offensives conjointes des armées éthiopiennes et érythréennes. Le gouvernement éthiopien n'a fait aucun commentaire sur la venue de M. Hammer ni sur les affirmations des rebelles. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Corne de l'Afrique, Hanna Serwa Tete, a rencontré l'envoyé américain hier lundi à Addis Abeba, indique un porte-parole de l'ONU à New York. Il ajoute qu'aucune mission conjointe des deux envoyés spéciaux n'est prévue. Après 5 mois de trêve, les combats ont repris le 24 août entre gouvernement fédéral et autorités rebelles du Tigré, anéantissant les espoirs de pourparlers. Les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir déclenché ces nouvelles hostilités.
Environ 173 civils ont été tués, 37 enlevés en 4 mois au Soudan du Sud dans des combats entre forces loyales au président Salva Kiir et au vice-président Riek Machar, a annoncé mardi l'ONU, dénonçant également de nombreux cas de violences sexuelles. Au Nigeria, les étudiants sont empêchés d'aller en cours en raison d'un bras de fer qui s'éternise entre l'État et les enseignants qui ont déclaré fin août une grève illimitée. Le principal syndicat du personnel des universités fédérale du Nigeria a initialement déclenché la grève le 14 février dernier, réclamant davantage de fonds pour l'enseignement supérieur, laissé à l'abandon depuis des décennies. Environ 730 enfants sont morts entre janvier et juillet dans des centres de nutrition en Somalie, pays au bord de la famine, a indiqué le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui estime que le chiffre réel est plus élevé.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Grande-Bretagne, Liz Truss est devenue première ministre aujourd'hui après avoir été reçue par la reine Elisabeth II, qui lui a confié la tâche de former un gouvernement dans son pays, en pleine crise économique et sociale. Le point avec Lionel Gahima.
La reine a reçu en audience Liz Truss, 47 ans, ancienne ministre britannique des Affaires étrangères, et lui a demandé de former un nouveau gouvernement. Boris Johnson l'avait précédé pour présenter sa démission. La passation de pouvoir s'est tenue à Balmoral et non pas au palais de Buckingham à Londres, comme le veut la coutume, en raison des problèmes de mobilité de la reine âgée de 96 ans. Liz Truss est déjà sous pression pour aider des millions de Britanniques confrontés à des factures d'énergie qui grimpent de manière astronomique et une inflation qui a entraîné des séries de grèves dans le pays. Lors de l'annonce de sa victoire, elle a rendu un hommage appuyé à son prédécesseur. Pour sa part, Boris Johnson, après avoir quitté Downing Street, reste député et a promis un soutien fervent à la nouvelle équipe. Liz Truss est la troisième femme Premier ministre après Margaret Thatcher et Theresa May. L'annonce de son gouvernement sera ainsi son premier test.
Le président américain Joe Biden a l'intention de téléphoner mardi à la nouvelle première ministre britannique Liz Truss pour la féliciter, a dit mardi la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. « Je suis impatient d'approfondir la relation spéciale entre nos pays et de travailler en étroite coopération sur les défis mondiaux », a par ailleurs écrit le président américain sur Twitter. Une douzaine d'anciens responsables du Pentagone se sont inquiétés mardi dans une lettre ouverte des risques de détérioration des relations entre civils et militaires aux États-Unis. Nous sommes dans un environnement où les relations entre civils et militaires sont exceptionnellement difficiles, préviennent 8 anciens ministres de la Défense et 5 anciens chefs d'état-major, avant d'énumérer 16 principes qui doivent guider les relations entre les militaires et la population civile. Les anciens responsables du Pentagone souligne dans ce document, publié par le site spécialisé War on the Rocks, que les militaires doivent accepter les ordres des civils, même s'ils ne sont pas d'accord, mais il souligne que ces ordres doivent être légaux. L'Agence internationale de l'énergie atomique recommande une zone de sécurité pour empêcher un accident nucléaire à la centrale ukrainienne de Zaporizhia, occupée depuis 6 mois par les Russes. Il est urgent de prendre des mesures provisoires, a estimé l'agence onusienne dans un rapport rendu public mardi, préconisant l'établissement d'une zone de sécurité nucléaire et de protection de ce complexe du sud de l'Ukraine. 21 combattants séparatistes yéménites et 6 membres d'Al-Qaïda ont été tués dans une attaque d'un groupe djihadiste dans le sud du Yémen, la plus sanglante depuis plusieurs mois. Des combattants d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique ont attaqué mardi des positions des forces séparatistes sudistes de la ceinture de sécurité dans le gouvernorat d'Abyan, ont indiqué des sources gouvernementales et de sécurité. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez Mouamadou Oumfa dans 5 minutes éco.
Au Kenya, le nouveau président William Ruto a déclaré lundi que le redressement économique serait une priorité de son administration. Dans une adresse à la nation diffusée par la télévision publique, peu après que la Cour suprême a confirmé son élection, il a fait savoir que pendant les 100 premiers jours de son mandat, il mettrait en œuvre un programme ambitieux pour lutter contre le chômage des jeunes et atténuer les pressions inflationnistes qui pèsent sur les ménages. Au Togo, l'encours de la dette publique a augmenté de 14% entre 2020 et 2021, passant de 2055 à 2912 milliards de francs CFA, selon une note d'information actualisée de l'UMOA. En dépit de son accroissement, relève la note consultée par Financial Afrique, l'encours de cette dette est demeuré en dessous de la norme communautaire de 70% préconisée par l'UMOA. L'Algérie envisage une légère réduction de sa production de pétrole de 2000 barils par jour en octobre pour qu'elle atteigne 1055 millions de barils par jour, a annoncé lundi le ministre de l'Énergie et des Mines. Cette décision intervient à la suite de la 32e réunion ministérielle de l'OPEP. Les pays membres ont décidé de réduire leur production de 100 000 barils par jour afin de contenir l'envolée des cours et une inflation au plus haut depuis des décennies.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On commence avec le football. La nouvelle saison de la Ligue des Champions débute ce soir en Europe.
Oui, le lauréat 2021, Chelsea, des nouvelles recrues sénégalaises Kalidou Koulibaly et gabonaises Pierre-Emerick Aubameyang sont à Zagreb avec un effectif renforcé. Manchester City se déplace sur la pelouse du FC Séville. Le Real Madrid, candidat à sa propre succession en quête d'un 15e sacre, entre en lice à Glasgow contre le Celtic. En Autriche, le RB Salzbourg reçoit le champion d'Italie, l'AC Milan. Pour le RB Leipzig, ce sera le Shakhtar Donetsk. Le Paris Saint-Germain du Marocain Achraf Hakimi démarre sa campagne par un choc contre la Juventus Turin.
Ces matchs de la première journée se poursuivront demain, peut-être sans Victor Osimhen.
L'attaquant nigérian de Naples est incertain pour le choc contre Liverpool de Mohamed Salah et Naby Keita, selon son entraîneur Luciano Spalletti, qui précise que sa titularisation sera décidée quelques heures avant le match. Victor Osimhen ne s'est pas entraîné hier en raison d'une fatigue musculaire ressentie après la victoire contre la Lazio samedi à Rome 2-1, soutient Luciano Spalletti. Après s'être entraîné en solo ce mardi, Osimhen doit rejoindre le groupe demain matin.
Tennis avec les nouvelles de l'US Open.
Et oui, la lutte pour les demi-finales se fera sans Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Une rareté qui ne s'est vue qu'une fois depuis 2004. Federer a pris sa retraite. Djokovic n'est pas présent à New York en raison de sa non-vaccination au Covid, comme cela avait déjà été le cas pour le Serbe à l'Open d'Australie en janvier. Le seul du Big Three, Rafael Nadal, a perdu en huitième de finale contre l'Américain Frances Tiafoe. C'est peut-être la fin ère, celle de la domination de ce trio qui a remporté 63 grands chelems en près de deux décennies. À noter aussi qu'avec les éliminations successives en huitième du Russe Danil Medvedev et du Croate Marin Cilic, aucun ancien vainqueur d'un tournoi du grand chelem n'est présent en quart de finale d'un majeur, une première depuis l'US Open 2020. Dans le tableau féminin, l'Américaine Jessica Pegula s'est imposée en huitième devant la Tchèque Karolina Pliskova 6-3-6-2 et jouera son premier quart de finale à Flushing Meadows. Ce sera contre la numéro 1 mondiale Iga Swiatek qui s'est fait peur avant de finalement battre l'Allemande Rulle Neumeier 2-6-6-4-6-0.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manirakiza. Place au dossier du jour. Au Kenya, le président élu William Ruto a déclaré qu'il va s'efforcer de répondre aux attentes de la population. La Cour suprême du pays a confirmé sa victoire en élection présidentielle. La Cour a rejeté à l'unanimité les recours de l'ancien premier ministre Raila Odinga qui a accepté le verdict. Reportage de Mohamed Youssouf depuis Nairobi. Le récit de Lionel Lunanira Gahima.
Le président élu William Ruto a salué la décision de la Cour suprême et s'est engagé à servir le peuple kényan.
And we are truly, truly grateful.
Nous sommes vraiment reconnaissants et je veux dire au peuple kényan et à ceux qui ont fait des efforts pour nous amener ici. Nous travaillerons dur et nous ne vous laisserons pas tomber.
La Cour, composée de 7 juges, a statué à l'unanimité que les résultats de la présidentielle du 9 août sont valides au regard de la Constitution et de la loi électorale. Les juges ont aussi assuré n'avoir constaté aucune irrégularité ou illégalité significative. Le juge en chef Martha Koum a lu la décision qui a rejeté les 8 pétitions contestant les résultats, dont celle de l'ancien premier ministre Raila Odinga.
The presidential election petition number E005 of 2022.
La pétition présidentielle E005 de 2022, consolidée avec les pétitions numéro E001, 2, 3, 4, 7 et 8 de 2022, est par la présente rejetée. En conséquence, nous déclarons que l'élection du président est valide en vertu de l'article 143 de la Constitution.
La Cour a estimé que la commission électorale a déployé une technologie qui a correctement identifié les électeurs, transmis les résultats et n'a pas été perturbée. Elle a également certifié que M. Ruto a obtenu plus de 50% de voix, la norme requise pour éviter un second tour. La Cour a noté quelques problèmes, mais a estimé qu'aucun n'était de nature à invalider le scrutin.
Although the petitioners have provided numerous affirmations pointing to possible irregularities and irregularities marked by failure of technology,
bien que les pétitionnaires aient fourni de nombreux éléments indiquant de possibles irrégularités et illégalités marquées par une défaillance de la technologie, une suppression organisée des électeurs, une mauvaise préparation de la commission électorale et de son président, des indiscrétions de la commission, des anomalies de transposition, l'absence d'agents et bien d'autres, nous sommes d'avis que les irrégularités et illégalités signalées ne sont pas d'une ampleur telle qu'elles ont affecté le résultat final de l'élection présidentielle.
Raila Odinga a promis de respecter la décision de la Cour. Il a réitéré, et je cite, « Nous avons toujours défendu l'état de droit et la Constitution. À cet égard, nous respectons l'avis de la Cour, bien que nous soyons en désaccord total avec sa décision aujourd'hui. » Sa colistière Martha Kaura a déclaré sur Twitter que la Cour a parlé, mais qu'elle n'était pas d'accord avec les conclusions. L'un des avocats représentant Odinga, James Orengo, va dans le même sens.
La règle du droit devrait prévaloir. Le tribunal a normalement le dernier mot en faisant une déclaration sur la base de la loi du pays. Mais en tant que citoyens souverains, nous avons le droit de ne pas être d'accord et de ne pas l'être avec véhémence.
William Ruto prêtera serment la semaine prochaine pour succéder à Uhuru Kenyatta et deviendra le 5e président du Kenya.
Au Burundi, le président Évariste Ndayishimiye hausse le ton contre certains membres corrompus du CNDD-FDD qui se croient intouchables. Il fustige un groupe de personnes qui veut renverser les institutions démocratiquement élues comme en 2015. Il prévient que c'est un acte qui n'arrivera jamais sous son mandat. Notre correspondant à Bujumbura a tendu le micro à certains habitants de la capitale économique burundaise. Son reportage.
Depuis plusieurs mois, le président Évariste Ndayishimiye s'insurge contre certaines autorités, cadres militaires et hauts cadres civils du pays, qui se croient que tout est permis. Devant les magistrats, le dernier jeudi du mois d'août, dans la capitale politique Gitega, il a pointé du doigt, sans les nommer, certains membres du parti présidentiel qui ont l'objectif de freiner le développement du pays. Ces personnes, qui se croient toutes puissantes, alors que c'est le pays qui les a faites, auraient même l'intention de l'éjecter du pouvoir, selon toujours le numéro un Burundais. Cet habitant de Bujumbura qui a requis l'anonymat attend que ces personnes soient un jour traduites devant les juridictions compétentes.
Je pense que c'est déjà une bonne chose. Il sait déjà ce qui veut bloquer le développement, ce qui veut bloquer ses initiatives. Le reste à savoir, c'est comment est-ce qu'il va procéder pour empêcher ces gens. Il est difficile de lutter contre les gens qui sont proches de toi par rapport à ceux qui ne sont pas proches. Nous attendons maintenant qu'est-ce qu'il va entreprendre pour bloquer.
Le chef de l'État burundais a indiqué que des dignitaires corrompus entravent au quotidien le développement du pays. Terence Manirambona, porte-parole du parti d'opposition CNL, Congrès National pour la Liberté, affirme que le président burundais fait face à deux courants contradictoires au sein du parti au pouvoir.
Des fois, le parti qui se confond au pays, ça nous inquiète. Deuxième chose, de bonnes intentions, mais qui ne se traduisent pas en actes concrets. On dirait qu'il y a deux courants au sein du parti au pouvoir. Un courant que l'on peut qualifier de réformiste, un autre réfractaire. Le plus dangereux, c'est que si le courant réfractaire devient plus fort, c'est un problème pour le pays. Mais attendons de voir.
Simon Barouette, professeur d'université et politologue, soutient le discours du président burundais.
Il est en train d'instaurer une nouvelle philosophie, une nouvelle façon de faire, cette fois-ci qui est la bonne pour le développement du pays, mais il y a des résistances parce qu'il est en train de s'éloigner du rôle auquel on s'attendait à ce qu'il fasse. Il est en train de dénaturer le pouvoir politique en Afrique et les gens donc ne le suivent pas et ils se sentent seuls et pour cela les gens ne sont pas d'accord.
Plus de 30 magistrats ont été dernièrement révoqués, cet administrateur communal destitué. Et comme le dit si bien le président burundais, il n'y a pas de naissance d'enfant sans contraction. Wet and see, comme disent les Anglais. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Les femmes engagées dans des domaines d'activité autrefois réservés uniquement aux hommes se félicitent de l'évolution des mentalités qui fait qu'il n'y a plus de métier tabou pour les femmes au Rwanda. Suivez ce reportage de Jean Damascène Manishimwe.
Débrouillez les forêts et minières utilisées par Madame Jeannette Moutessi. Nous sommes avec elle dans une mine où est extrait le coltan à une quinzaine de kilomètres au sud de la capitale rwandaise Kigali. Cette mère de deux enfants se sert de cet engin pour percer des roches. À la recherche du coltan, c'est son labeur quotidien de 7h du matin à 16h. Dans le temps, de tels travaux durs étaient uniquement réservés aux hommes. Une conception qui a évolué pour le moment, comme l'indique Madame Moutessi.
Je dirais à ceux qui hésitent encore que les femmes sont aussi capables. Nous avons plusieurs obligations comme femmes, mais nous devons y ajouter notre part. Il ne faut pas se sous-estimer, mais plutôt avoir confiance en soi. Si on le fait, on vient à bout de n'importe quel travail.
Cette mine dans laquelle travaille Moutessi est détenue par une femme entrepreneur, Madame Vestine Kamugwera. Comment a-t-elle pu arriver à ce stade?
Nos autorités ont sensibilisé le public à créer de l'emploi pour gagner la vie. C'est ainsi que j'ai pensé à l'extraction minière. Je me disais que ce domaine rapporte beaucoup. J'avais la volonté et j'ai relevé ma détermination. Comme ça, je me suis lancée dans l'extraction minière.
Les femmes sont nombreuses dans ce domaine d'extraction minière et dans d'autres métiers autrefois considérés comme durs. Mokanyeligira et 14 autres femmes travaillent quotidiennement avec une centaine d'hommes dans cette mine de Kamoni. Ces femmes se sentent fières d'avoir intégré ce métier et en tirent les revenus qui leur permettent de subvenir aux besoins de leur famille.
Oui, Nous devons travailler pour notre développement. Aucune femme n'est complexée au travail pour le moment. Les mentalités ont évolué et nous trouvons ce qui nous engage. Il suffit d'avoir du savoir-faire et la force de le faire.
Clémence Mounezero travaille, elle, comme technicienne dans la centrale électrique de Musanze, c'est au nord du Rwanda, un domaine que les femmes n'abordaient pas non plus dans l'OTAN. Les statistiques de l'école polytechnique du Rwanda montre que dans les 100 dernières années, les femmes constituaient 23% de l'effectif total de tous les étudiants, alors qu'elles sont de 26% pour l'année académique en cours. Pour briser les conceptions d'antan qui interdisaient certains travaux aux femmes, les autorités rwandaises mènent depuis des années des campagnes de sensibilisation qui font que les femmes jouissent de leurs droits au même titre que les hommes et deviennent désormais de plus en plus nombreuses dans des instances de prise de décision, comme au Parlement où les femmes constituent 61% de l'effectif total des parlementaires à la Chambre des députés. Jean Damasen Manichimwe, à Kigali, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24h sur 24.
Au Royaume-Uni, l'ex-ministre des Affaires étrangères Liz Truss est formellement devenue première ministre britannique mardi, après avoir été reçue par la reine Elisabeth II. La monarque lui a confié la tâche de former un gouvernement dans un Royaume-Uni en pleine crise économique et sociale. Elle a promis lundi de gouverner comme une conservatrice, de mettre en place un plan audacieux pour réduire les impôts et faire croître l'économie et de battre les travaillistes lors des législatives prévues d'ici début 2025. Pour en parler, nous avons joint en Écosse Assa Samaké-Roman, journaliste indépendante à Édimbourg.
C'est la troisième femme à être première ministre, troisième femme en plus issue du rang du Parti conservateur. Il y a d'abord eu Margaret Thatcher, ensuite Theresa May et maintenant Liz Truss. Elle prend le pouvoir aujourd'hui et donc elle va avoir des chantiers très importants qui l'attendent à son bureau à 10 Downing Street. En premier lieu, la crise du coût de la vie qui est causée par l'augmentation assez fulgurante des prix de l'énergie, le gaz, l'électricité qui vont augmenter très très fortement à partir du mois d'octobre et à nouveau en début d'année prochaine. Donc les foyers, les entreprises sont très très inquiets. Là, c'est une augmentation de 80% qui va arriver. Et donc, tout le monde attend de savoir ce qu'elle, à 10 Downing Street, va faire pour aider des gens au Royaume-Uni.
Elle a promis à agir immédiatement.
Alors, justement, c'était une critique qu'on lui a adressée très souvent ces dernières semaines pendant les débats, en fait, qui ont eu lieu tout cet été pour choisir qui serait le successeur de Boris Johnson. On a dit que Liz Truss ne donnait pas beaucoup de détails quant à ce qu'elle voulait faire pour aider les gens dans cette crise du coût de la vie. Donc, aujourd'hui, on sait que là, dans les prochains jours, très probablement même cette semaine, elle va donner tout un paquet de politiques, en fait, pour soulager les ménages qui vont faire face à des factures extrêmement élevées cet automne et cet hiver. Il y a déjà des choses qui sont apparues dans la presse. On parle peut-être d'un gel des prix de l'énergie au niveau actuel, qui est un peu en dessous de 2000 livres sterling par an, plafond, en fait, de l'énergie, qui pourrait, du coup, ne pas bouger pour cet automne. Évidemment, cela coûterait assez cher à l'État, plusieurs dizaines de milliards de livres sterling. La question sera de savoir comment est-ce que ça sera payé. Pour le moment, elle a exclu de taxer les énergéticiens, donc des entreprises comme British Gas, Scottish Power, etc., etc. Ça, elle est complètement contre des nouvelles taxations, en fait, sur ces grosses entreprises. Mais elle a aussi dit qu'elle n'augmenterait pas les impôts. Donc, tout le monde se demande comment est-ce que l'État va pouvoir financer un gel des prix d'énergie. Donc, on attend les détails. Pour le moment, voilà, il y a des petites choses qui sortent à droite, à gauche, mais rien de très, très concret.
Comment l'opinion publique au Royaume-Uni a accueilli cette femme comme première ministre?
Pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y a eu une lune de miel, une période de grâce, on va dire, qui suit l'arrivée au pouvoir de tout premier ministre, parce que tout le monde est tellement angoissé par la crise du coût de la vie. Et ça se voit d'ailleurs, il y a eu de nombreuses grèves, il y en a d'autres qui s'annoncent, les pompiers pourraient se mettre en grève. En Écosse, on a eu une grève des éboueurs, on a une grève dans les écoles, les crèches aussi. Enfin vraiment, les gens sont très mécontents en fait de la situation.
Assa Samaké-Roman, journaliste indépendante à Édimbourg, en Écosse. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production et de rédaction pour la réalisation de cette édition. Lionel Lunamira Gahima a assuré la mise en onde. À la présentation, Eric Manilakidza, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, sur votre site voafrique.com, sans oublier vos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.